Je suis trois fois apatride en tant que tchèque parmi les autrichiens, en tant qu'autrichien parmi les allemands, en tant que juif dans le monde entier. Partout, je suis un intrus, nulle part, je ne suis chez moi, a dit Gustav Mahler, dont nous venons d'écouter un extrait de la symphonie numéro 5. Sa vie a été une suite de contradictions et de conflits qui ont probablement été la force motrice de son génie créateur, avions-nous constaté dans une émission diffusée en 2011 à l'occasion du centenaire de la mort du compositeur. Issu d'une famille modeste, Gustav Mahler est né le 7 juillet 1860 à Kalisztě, dans une petite ville tchèque qui faisait à l'époque partie de l'Empire d'Autriche. Il a grandi avec ses parents aubergistes au sein d'une fratrie de 14 enfants, dont seulement 6 ont atteint l'âge adulte. À l'automne 1860, lorsque Gustav a 3 mois, la famille s'installe à Jihlava, ville essentiellement germanophone, où les Mahler fondent une distillerie. Gustav y passe toute son enfance et ses dons musicaux sont décelés très tôt. Il s'imprègne de toutes les sonorités qui l'entourent, y compris de celles des fanfares provenant de la caserne militaire près de chez lui. En 1875, Gustav entre au conservatoire de Vienne et fait simultanément des études de philosophie. Après cela, il ne retourne que sporadiquement à Jihlava. Les 15 années passées dans cette ville auront toutefois une influence décisive sur le reste de sa vie d'artiste, comme nous l'a raconté il y a quelques années le photographe et guide à Jihlava, Jakub Koumar.
Vliv Jihlavy na Gustava Mahlera byl poměrně značný, protože Jihlava byla německý...
Jihlava a beaucoup influencé Gustav Mahler. Jihlava, Jihlava, était un petit îlot allemand dans le milieu tchèque, à mi-chemin entre Prague et Vienne. Une importante communauté juive y était implantée. Ainsi, au début d'alcool de son père, le petit Gustav entendait des chansons juives. Comme Jihlava était une ville de garnison, la musique militaire a également influencé sur sa création, ainsi que la chanson populaire tchèque, dont l'inspiration se fait entendre notamment dans la première symphonie, ainsi que dans ses autres opus, sans oublier la musique liturgique et la musique religieuse juive. En dépit de ses origines juives, Gustav Mahler ne se rendait pas souvent à la synagogue. Attiré par la thématique chrétienne, il aimait aller à l'église Saint-Jacques.
Vienne, Leipzig, Budapest, Hambourg et enfin New York, autant de villes qui jalonnent la carrière du compositeur et où il a été engagé soit comme directeur des maisons d'opéra, soit comme chef d'orchestre. Gustav Mahler a également accepté plusieurs offres de venir travailler dans des villes tchèques et moraves. Ainsi, en 1883, il dirige l'orchestre du théâtre municipal d'Olomouc. 2 ans plus tard, il obtient à Prague le poste de chef d'orchestre du théâtre allemand. En 1888, il retourne encore à Prague, mais pour un court séjour seulement. La première de sa 7e symphonie à Prague en 1908 donne lieu à une rencontre de ses admirateurs et amis, parmi lesquels les directeurs de plusieurs théâtres européens, des chefs d'orchestre et des écrivains pragois de langue allemande comme Max Brod et Franz Kafka. En septembre 1910, l'immense succès de sa symphonie numéro 8 à Munich est le plus grand triomphe de Mahler en tant que compositeur, qui va malheureusement disparaître quelques mois plus tard à l'âge de 51 ans. La maison au centre de Jihlava où Gustav Mahler a passé son enfance abrite aujourd'hui son musée. On y trouve plusieurs expositions interactives dédiées au compositeur, à sa famille, à sa femme Alma, à ses proches et amis. La maison Mahler organise régulièrement des événements autour de la vie et l'œuvre du musicien destinés à tous les publics. Parmi les personnalités emblématiques de la région de Vysočina figure également le graveur et poète Bohuslav Reinek, né en 1892 dans le petit village de Petrkov, situé non loin de Havlíčkův Brod. C'est ici qu'il a passé toute sa vie aux côtés de son épouse, la poétesse grenobloise Suzanne Renaud. C'est aussi dans son monde familier, à la ferme de Petrkov, que Bohuslav Reinek a placé les scènes de son Don Quichotte, une série d'estampes qu'il a dédiée aux chevaliers errants en s'inspirant du fameux roman de Cervantes. En 2016, les éditions Romarin ont publié en version bilingue franco-tchèque l'ouvrage Le Don Quichotte de Reinek, qui présente cette série de feuilles graphiques et raconte la genèse du cycle. À cette occasion, nous avons consacré une émission dédiée à son auteur, Bohuslav Reinek. Nous vous en proposons un extrait accompagné du poème de Reinek, Podzemní motýly, papillon d'automne, mis en musique et interprété par Karel Vepřek. Podzimní motýle spolu jsme skryli se. Poète, graveur, traducteur de poésie et de littérature française, Bohuslav Reinek a accompli une œuvre immense. Une œuvre occultée par le régime communiste, découverte par la jeune génération d'artistes, notamment dans les années 1960, redécouverte après la révolution de velours et très admirée depuis dans son pays natal ainsi qu'en France. Reinek a publié 12 recueils de poèmes, le 13e ayant été interdit de publication en 1972, un an après la mort de l'artiste. Parallèlement à sa création littéraire, Reinek s'est aussi consacré à la gravure en combinant plusieurs techniques, celles de la pointe sèche, de l'eau-forte ou encore du cliché vert. Toute son œuvre, graphique et littéraire, est profondément chrétienne, intimiste et d'inspiration très personnelle, traits qui font aujourd'hui la célébrité de l'artiste. Une situation très différente de celle que Reinek a connue de son vivant. Après avoir séjourné dans l'entre-deux-guerres dans le Dauphiné, Bohuslav Reinek, sa femme Suzanne Renaud et leurs deux fils, Daniel et Jiří, se trouvent enfermés dans la Tchécoslovaquie de l'époque, d'abord par le régime nazi et ensuite par le pouvoir communiste. La ferme des Reinek est étatisée, la famille peut rester à condition que le père et les fils y travaillent comme de simples employés. Suzanne Renaud, ne pouvant plus se rendre en France, s'occupe, outre sa propre création littéraire, des traductions de poèmes tchèques en français. Malgré toutes ces circonstances défavorables, un petit miracle se produit à l'automne 1960. Le libraire grenoblois Jean Damien inaugure dans sa boutique de la rue Montorge une exposition d'estampes de Bohuslav Reinek inspirée du Don Quichotte de Cervantes. Ce thème préoccupait Reinek depuis plusieurs années. Mais comment a-t-il réussi à mettre en place cette exposition depuis Petrikov? Pour en savoir plus, nous avons joint à Grenoble Annie Cosimour, fondatrice de l'association Romarin, qui promeut l'œuvre du couple Reinek en France et auteur du catalogue raisonné de l'ensemble de l'œuvre plastique de Bohuslav Reinek accessible sur le site internet de l'association. Annie Cosimour.
Reinek pensait au thème de Don Quichotte depuis très longtemps, comme en témoigne sa correspondance. Sa série de 14 gravures créées durant les années 50 n'avait pas encore été dévoilée. Lorsqu'en 1959, il remarque une note de lecture au sujet du roman de Cervantes dans une revue littéraire grenobloise que se faisait envoyer Suzanne Renaud à Petrikov, c'est par l'intermédiaire du directeur de la revue que Reinek écrivit à Jean Damien, l'auteur de l'article donc, en lui révélant son vif souhait de voir naître les gravures de sa série en France. Très vite. Alors, les amis dauphinois se mobilisèrent, envoyèrent à l'artiste du bon papier pour estampes, prêtèrent leur collection personnelle pour organiser une petite exposition. Elle se tint dans la librairie de Jean Damien, située au cœur de Grenoble. Et c'est ainsi que l'album Don Quichotte vit le jour le 7 novembre 1960.
L'album de Grenoble a été acheté par un collectionneur. Et ce collectionneur, c'était votre mère qui vous l'a offert pour votre 20e anniversaire. C'était un moment très important dans votre vie, puisque c'était le début d'une aventure qui dure jusqu'à présent. C'est grâce à Don Quichotte que vous avez commencé à vous intéresser à l'œuvre de Reinek. C'est grâce à cet album que vous êtes lié à sa famille. Qu'est-ce que vous avez aimé à l'époque, cher Reinek? Pourquoi êtes-vous tombé sous le charme de son art graphique? Et quel regard portez-vous aujourd'hui sur Don Quichotte? Est-ce que votre perception de ce cycle a évolué au fil des années?
Oh, Oh, ce n'est pas tout à fait cela. Maman était en effet très sensible aux arts. Elle avait des amis artistes, elle les encourageait. Elle fut saisie par la beauté et la poésie qui se dégageaient des gravures qu'exposait Jean Damien. Mais à cette époque, je me consacrais à mes études scientifiques et ce sont les ascensions en montagne plutôt que les visites de musées qui occupaient mes loisirs. Mais je disais toujours oui à l'aventure et je n'ai pas hésité à accepter le simple « qu'elle vienne » de Rennec en réponse à la demande de mes parents pour lui rendre visite. Et je dois dire qu'en arrivant à Petrekov, j'ai tout de suite ressenti l'âme de cette maison, un espace de liberté de conscience, un lieu où la simplicité des gestes, la pureté des émotions, des sentiments étaient préservés, ce qui a immédiatement effacé la différence d'âge. Dans l'œuvre de graphique de Rennec, j'aimais surtout les paysages de brume, de neige, à cause de cette expression du silence. J'ai apprécié les scènes bibliques un peu plus tard, en connaissant mieux le contexte historique et politique du pays de Rennec. Et ce n'est que 20 ans plus tard, après mon séjour à Petrekov en 1983, que j'ai rencontré le grenoblois Pierre Dalloz, qui avait entrepris de rassembler les manuscrits de Suzanne Renaud et voulait organiser une exposition Rennec. C'est à ce moment-là que je me suis intéressée de façon active à l'œuvre de Rennec. Et là encore, j'ai dit oui à l'aventure, celle du catalogue. En ce qui concerne Don Quichotte, le Don Quichotte de Rennec, j'ai assez vite compris qu'il était fortement lié à la vie et à la personnalité de l'artiste, celui-là même qui avait répondu qu'elle vienne, en dépit des conditions calamiteuses de la vie à Petrekov. Désormais, le Don Quichotte de Rennec représente pour moi le courage face à l'opinion de masse ou au confort qui nous anesthésie, la résilience devant ce qui nous dépasse dans la vie.
Avez-vous une feuille graphique préférée de ce cycle ?
Oui, c'est le retour. Le Don Quichotte avec son lièvre dans les bras et la maison au loin dans la neige. Tout cet espace blanc m'interpelle.